Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est essayiste, ancien conseiller à Matignon, senior fellow à l'Institut Montaigne.
Effectivement, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Hakim Elkaoui.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Nous allons parler dans quelques instants de ce rapport de l'Institut Montaigne intitulé « L'avenir se joue dans les quartiers pauvres ». Mais tout d'abord, sur le fiasco du Stade de France, Gérald Darmanin s'est justifié hier en audition au Sénat, alors qu'une partie de l'opposition continue de lui reprocher de faire diversion, minimisant les violences de voyous, de cités et d'étrangers sans papier. Est-ce que selon vous, il y a un déni de réalité de la part de l'exécutif?
Je pense que sur cette affaire, il y a deux ou peut-être trois problèmes à la fois. Très français. Il y a un problème de grève du RER B de l'UNSA, qui était très content de son résultat, c'est-à-dire que tous les spectateurs sont arrivés par une seule entrée. Ensuite, il y a un problème de faux billets, ça en fait personne, je crois, n'en doute. Le sujet, c'est la masse des faux billets. Et puis il y a, à l'évidence, des délinquants qui ont profité de la situation, et notamment du fait qu'il y avait un attroupement de gens qui avaient des actifs, les billets ils valaient très cher, et qui ont essayé de s'en saisir en volant les téléphones portables, et puis après, comme il y a eu énormément de monde et un grand risque de sécurité, d'où les gaz lacrymogènes, il fallait éviter un attroupement, un essoufflement, il fallait éviter que des gens meurent sous la foule. Mm-hmm. Et à partir de là, la police a géré comme elle a pu. Et puis après, chacun essaye de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, ce qui est d'une certaine manière un jeu assez attendu.
Dis-lui, les responsabilités est une chose, mais par exemple, il y avait des témoignages très précis des supporters, il y avait le récit des policiers de terrain qui convergent pour décrire des hordes de délinquants, des gangs de banlieue, c'est ce qui est dit et décrit, qui ont détroussé, agressé de nombreux supporters. Et hier, Gérald Darmanin a jugé déplacé de rappeler les nationalités de ces voyous, par peur, peut-être de stigmatiser, comme on dit, notamment la Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est le cas, Hakim Elkaoui?
Moi, je pense que la meilleure façon de ne pas stigmatiser, c'est de dire la vérité. Parce que quand on dit la vérité, on évite l'amplification, on évite le fantasme, on évite de dire n'importe quoi. Donc, je ne connais pas la nationalité. On connaîtra ou on connaît peut-être la nationalité de ceux qui ont été interpellés, puisque dans ces cas-là, il y a des vérifications d'identité. Il y a peut-être quelques Britanniques. Il y a probablement beaucoup de Français. Et il y a peut-être quelques personnes d'origine étrangère non britannique.
Oui, c'est même certes fait. Mais en quoi le dire, en quoi le dénoncer contribuerait à stigmatiser une population de ces mêmes cités qui est d'ailleurs souvent victime de ces voyous et de ces délinquants?
Alors, je pense que ce que vous dites est le plus important, parce que quand on regarde la carte de la délinquance en France, là où elle est le plus importante, c'est pas à Versailles ou à Neuilly. C'est dans les quartiers pauvres des grandes villes, et ceux qui souffrent le plus de cette délinquance, ce sont les habitants des quartiers pauvres des grandes villes. Et quand on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité,
dites-vous?
Oui, mais parce que sur
vous
ce sujet-là,
le mot du ministre du Garde des Sceaux, ce n'est pas une réalité.
Non, c'est tout à fait une réalité, mais ce qui est important, c'est la construction sociale du phénomène. Le sentiment d'insécurité, il est trois fois plus important dans les quartiers pauvres que dans les autres, que dans le reste de la France.
Et c'est ce que vous constatez, et plus largement d'autres choses, venons-en à votre rapport à Hakim Elkaoui de l'Institut Montaigne, dont vous êtes le co-auteur, où il est question d'avenir, et en particulier de l'avenir dans les quartiers pauvres. Alors le titre du rapport est éloquent, l'avenir se joue dans les quartiers pauvres. Sur quoi repose une telle affirmation?
Quand on dit l'avenir, c'est notre avenir à tous, et pas seulement l'avenir des habitants des quartiers pauvres. Alors peut-être un mot déjà sur le concept, les quartiers pauvres c'est quoi? C'est les quartiers politiques de la ville. Depuis la loi Lamy 2014, ces quartiers sont zonés en fonction, en gros, d'un seul critère qui est la pauvreté. Et cette pauvreté c'est quoi? C'est trois fois plus pauvre que le reste de la moyenne nationale, donc on a 42% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça fait moins de 1000 euros par mois. Pourquoi c'est notre avenir qui se joue? Parce que c'est l'avenir.
Pourquoi quartier pauvre? Est-ce que c'est pudiquement pour pas dire banlieue?
Non, parce qu'en fait, il y a trois types de quartiers pauvres urbains. Il y a les quartiers pauvres des grandes métropoles, ce qu'on appelle les banlieues, les cités. Mais il y a aussi les quartiers pauvres des zones post-industrielles, le bassin minier par exemple, ou la vallée de la Moselle. Et puis il y a des quartiers pauvres urbains un peu partout dans plein de petites villes, il y en a à Angoulême, il y en a à Béziers, il y en a à Pontarlier, il y en a à Lons-le-Saunier. Donc il faut dire cette réalité, et en même temps, il faut pas dire quartier.
Pourquoi?
Il faut pas euphémiser. On meurt de l'euphémisation de la réalité. Donc ce sont des quartiers qui sont identifiés par leur taux de pauvreté. Donc on dit quartier pauvre.
Et en quoi ce rapport à Hakim Elkaoui, par sa méthodologie, par ses propositions dont nous allons parler, tranche-t-il avec la montagne de rapports qui ont été faits depuis des années en France sur les banlieues, mais aussi sur les villes et les zones que vous décrivez?
Alors d'abord, je crois pas qu'il y ait depuis quelques années beaucoup de travaux sur ces sujets-là.
Vous êtes allé voir dans les tiroirs des ministères,
on a tout lu, tout relu.
Oui.
La Cour des comptes fait des travaux assez régulièrement, les assemblées font des travaux, puis il y a eu le rapport Borloo, qui est celui le dernier, hein, qui avait beaucoup marqué. Moi, je dirais plutôt que c'est un sujet qui est très maltraité par non seulement l'action publique, mais la réflexion publique. Parce que, et c'est le paradoxe, on en parle tout le temps. Il y a eu 6 mois de campagne électorale, présidentielle, en fait, sur non pas ces quartiers-là, mais les habitants de ces quartiers. Quand on parle d'immigration, quand on parle d'islam, quand on parle d'islamisme, quand on parle d'intégration, en fait, on parle de qui ? On parle des habitants de ces quartiers, et d'ailleurs des jeunes des habitants de ces quartiers. Et ce qui est frappant, c'est qu'on ne parle jamais de solutions. On parle toujours des problèmes, on parle jamais de solutions. Et pourquoi c'est notre avenir qui se joue ? Parce que c'est juste la cohésion de la nation. Et moi, ce que je veux éviter, ce qu'on veut éviter, ce sur quoi travaille l'Institut Montaigne depuis très longtemps, c'est comment on fait pour, à la fin, vivre ensemble, non pas avec une forme d'élégie un peu théorique, mais on a des très graves problèmes, il faut les résoudre.
Alors les solutions, on partage votre diagnostic, et qui ne le ferait pas évidemment pour une cohésion nationale, à Kemal Karoui, mais que dites-vous à tous ces Français ce matin qui nous écoutent, j'allais dire trop riches pour être aidés, trop pauvres pour bien vivre, et qui entend depuis des années ce discours, celui que vous tenez, en parlant des aides aux quartiers difficiles, et qui n'en bénéficient pas. C'était un peu la problématique des Gilets jaunes, vous savez, avec le sentiment ou la réalité de contribuer sans jamais bénéficier.
Alors vous pointez un point important qui est l'idée qu'on met plein d'argent dans ces quartiers.
Ce qui est intéressant, c'est une réalité.
C'est faux.
C'est une réalité.
Ah non, c'est
faux. On n'a jamais mis d'argent avec tous les différents plans banlieue.
C'est faux.
Bon, j'ai la liste, hein, mais je ne vais pas en faire.
Je vous donne quelques chiffres. Oui. D'abord, il faut distinguer les bâtiments et les habitants. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces quartiers ? On fait du bâtimentaire, on fait de la rénovation des bâtiments. C'est ça le plan Borloo, c'est ça l'ANRU. Et en gros, on met 3 milliards d'euros par an de rénovation des HLM. Bon. 3 milliards d'euros, vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais en fait, on rénove des HLM partout en France. Sauf que partout en France, on ne compte pas le montant. Donc on le fait sur ces zones-là, et on le fait parce que l'État met lui-même un peu d'argent, et il met un peu plus d'argent qu'ailleurs. Mais si on regarde le service aux habitants, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il manque 1 milliard d'euros par an par rapport au lot commun. Et ce milliard, il est où ? 350 millions d'éducation nationale, alors qu'il y a un peu plus d'enseignants, mais ils sont beaucoup plus jeunes et donc ils coûtent moins cher. 550 millions de policiers en moins. 550 millions d'euros chaque année
ce
de policiers
normal.
En moins.
Mais Hakim Akar, par exemple, j'ai pris le dernier rapport de l'INSEE. Il ne s'agit pas de faire un concours qui est le mieux ou le moins bien loti. Malgré tout, les banlieues sont moins pauvres que certaines villes. Et vous en avez parlé au début de cet entretien. Par exemple, certaines villes du Nord et de Picardie, les banlieues sont moins pauvres que beaucoup de zones rurales en France. Bon, et qui s'en soucie ?
Alors, quand on regarde les banlieues des grandes métropoles, hein, puisque c'est ça dont on parle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de difficultés. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Mais c'est celui qui, dans les 10 dernières années, c'est le 3e département à avoir créé le plus d'emplois dans les 10 dernières années. Pourquoi ? Parce que les banlieues des métropoles sont tirées vers le haut par la dynamique des métropoles. La croissance aujourd'hui en France, elle est faite dans les grandes villes. Et donc, les habitants de ces quartiers, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très près des grands centres de production, des grands centres économiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'une partie d'entre eux s'en sort. Ils s'en sortent très bien. Et l'ascenseur social, en tout cas l'escalier social, il fonctionne pour eux. Le problème, c'est qu'il y a une partie importante, une minorité, mais vraiment importante, qui elle est laissée complètement de côté.
Dans vos préconisations nombreuses, vous dites à raison, et là on peut être tous d'accord avec vous, il faut le retour des valeurs républicaines. Mais pourquoi, selon vous, ces valeurs ont-elles disparu ? Pourquoi ces valeurs, c'est un mot valise, hein, valeurs, mais quand même, on voit de quoi il s'agit, les valeurs républicaines, ont-elles déserté certains de ces quartiers ?
Alors, il y a plein de raisons. Il y a la spécificité des quartiers pauvres des grandes villes, c'est quoi par rapport aux autres ? C'est l'immigration. En Seine-Saint-Denis, il y avait 15% d'immigrés en 1982. Aujourd'hui, il y en a 30. En France, on est passé de 7,5 à 9,5 dans la même période. Donc, il n'y a pas une vague d'immigration colossale en France. Il y a une vague d'immigration très importante dans certains quartiers. Et ces quartiers, ce sont les quartiers des grandes villes, Paris d'abord, et essentiellement la région parisienne, et puis l'arc méditerranéen.
Je reformule juste la question. Est-ce que c'est la faute, si ces valeurs, pour certaines, n'y sont plus, est-ce que c'est la faute de la République, de l'État, ou est-ce la faute d'une contre-société ? Vous entendez souvent ce discours, je suppose, une contre-culture, en gros, où le policier est considéré comme l'ennemi, où ce serait la loi des caïds et des islamistes, que disent depuis 40 ans, évidemment, Georges Bensoussan ou encore Bernard Rougier.
Mais en fait, c'est compliqué parce que, encore une fois, les victimes des caïds et des islamistes, ce sont les habitants de ces quartiers. Le fait migratoire, c'est quoi? Le fait migratoire, c'est on passe d'une culture A à une culture B. Et c'est une transition. Dans cette transition, il y a un moment compliqué. C'est le moment où on perd le lien avec la culture des parents.
Et pourquoi on le perd?
Mais parce que...
On le rejette?
Les parents sont décrédibilisés par les enfants parce que les parents ne sont pas raccord avec la société. Et donc les enfants se trouvent au milieu du guet. Certains s'en sortent, une majorité, mais il y a une minorité, et notamment ceux qui sont désocialisés, qui échouent à l'école, etc., et qui sont attirés par une forme de délinquance très, très, très juvénile, hein, parce qu'à 12 ans, 13 ans, on a déjà d'énormes problèmes, ben, eux, ils vont aller chercher autre chose.
Mais
ils vont chercher une contre-république. Ouais. Et puis, il y a une offre idéologique qui arrive, c'est l'offre islamiste qui dit « La République est contre vous, la France est contre vous, regardez les discriminations ». Qui sont très importantes. Et nous, on est là pour vous, on donne un sens à votre vie. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est quoi l'islamisme? C'est des questions-réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une prise en charge globale de l'individu. Et ça, ça marche. Et ça marche chez une partie d'entre eux.
Donc vous dites que les islamistes offrent un projet social, culturel, idéologique à ces jeunes aujourd'hui qui y adhèrent.
Et oui, tout à fait. Et ce que je vois aussi, c'est que quand vous parlez de contre-société, c'est peut-être valable dans un petit nombre de territoires, si on parle de contre-société globale. Mais c'est quoi le succès disons de l'islamisme ou du post-islamisme? Il y avait l'Église catholique. L'Église catholique, elle l'encadrait, les jeunes des milieux populaires. Il y avait le Parti communiste, qui faisait exactement le même boulot, avec des valeurs un petit peu différentes, mais une forme de travail social, travail culturel très important. Et puis il y avait l'action de l'État, l'action des collectivités. Tout ça s'est retiré. L'Église catholique a assez largement disparu, le Parti communiste a assez largement disparu, et il y a un engagement public, qu'il soit au niveau de l'État ou au niveau local, qui est beaucoup plus faible. Et ben, il y a une offre d'encadrement
social
qui s'est développée.
Dans cela, vous dites que c'est de la faute de l'État qui s'est retiré.
C'est la faute. Vous savez, c'est pas le sujet, c'est pas est-ce que c'est la faute de tel ou tel. C'est un état de fait et il y a des responsabilités. Ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on arrête de croire qu'on fait beaucoup, la puissance publique fait beaucoup dans ces quartiers. Parce que ce n'est pas vrai. Elle fait beaucoup pour la rénovation urbaine et tout le travail qu'on fait là, c'est dire il faut penser aux habitants.
Mais la rénovation urbaine, ça participe quand même à l'action.
Oui, mais en fait, vous savez, vous détruisez les barres de HLM, vous en reconstruisez d'autres plus agréables, à coup sûr. Vous n'avez pas changé les habitants, vous avez créé zéro activité économique et nous, on a compté qu'il manquait 13 000 forces de l'ordre dans ces quartiers.
Et enseignants, parce que là, vous donnez un exemple concret, évidemment, de pistes développées. Il y a beaucoup de choses dans votre rapport, mais aussi, évidemment, attirer les enseignants dans ces zones les moins attractives. Alors, question, comment vous faites, Hakim El-Karoui, parce qu'il y a aussi, il faut bien le décrire, les violences contre les enseignants, les insultes, les menaces, parfois les contestations de certains cours d'histoire. Qu'est-ce que vous dites à un professeur qui ne veut pas vivre cela?
Alors, bon, d'abord, il faut savoir qui va enseigner. Hein. C'est paradoxal, d'ailleurs, c'est le même problème pour les policiers. Ce sont les plus jeunes et les moins formés qui vont affronter les élèves les plus compliqués. Ça, déjà, c'est pas normal. La deuxième chose, c'est qu'ils sont maintenant un peu mieux payés, puisqu'il y a des primes. Les primes se développent, et d'ailleurs, il y a beaucoup a été fait durant le dernier quinquennat, mais ça suffit pas. Puis la troisième chose, c'est que pour aller dans ces quartiers-là, il faut être un hussard noir de la République. Il faut y croire, il faut en vouloir, il faut être prêt à y rester.
Oui,
et il y a beaucoup d'enseignants.
Des menaces, des insultes. Pardonnez-moi d'insister sur cet aspect-là.
Il faut vouloir changer le monde.
Est-ce que les bons sentiments. Oui, mais.
Il faut vouloir changer le monde.
C'est plus facile de le changer ce matin dans notre studio que face à.
C'est sûr, mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont cette foi-là chevillée au corps. Parce que quand ils se lèvent le matin, ils savent à quoi ils servent. Mais pour ça, il faut pouvoir aussi les choisir. Il faut pouvoir les retenir. Et il faut une liberté des chefs d'établissement. Pour organiser leur équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a bien souvent des enseignants qui arrivent là, qui ne veulent pas, qui partent le plus tôt possible, qui habitent le plus loin possible, et puis qui, au bout de 2 ans, ne sont plus sur place. Et ce qu'il faut dans ces quartiers-là, ce sont des adultes. Des enseignants, des travailleurs sociaux, des acteurs du monde sportif. Et malheureusement, il n'y en a pas assez.
Pour finir sur le rapport de l'Institut Montaigne à Hakim El-Karoui, la dernière fois que ce rapport, ce sujet a été remis à Emmanuel Macron, vous l'avez cité tout à l'heure, c'était avec le plan Borloo, et le président avait dit ceci, que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant on m'a remis un plan, et bien ce n'est pas vrai, cela ne marche plus comme ça, donc je vous pose la question sur votre rapport, est-ce que ça marche comme ça quand vous le remettez?
Écoutez, moi je pense que c'est très important que deux mâles blancs se saisissent du sujet parce que ça montre que c'est un sujet national, c'est pas un sujet de minorité périphérique qui voudrait traiter un problème qui ne les concerne qu'elles. Ça concerne tout le monde, on le sait, on parlait de délinquance aujourd'hui, on aurait pu parler de djihadisme. Malheureusement, on a fait avec l'Institut un travail qui s'appelle les militants du djihad. Qu'est-ce qu'on voit? Les trois quarts, enfin 90% des djihadistes viennent des quartiers pauvres des grandes villes, et les deux tiers d'entre eux sont d'origine maghrébine. Et les autres, c'est qui? C'est les copains des jeunes d'origine maghrébine. C'est pas un sujet périphérique, c'est un sujet central dans notre cohésion nationale. Et encore une fois, je le redis, on ne fait pas assez pour les habitants. Ils ont une part de responsabilité. Il faut aussi comprendre les difficultés de la transformation, de la désaffiliation, parce qu'encore une fois, l'intégration, c'est un chemin, et c'est un chemin très compliqué. Mais en même temps, si on n'a pas les forces de l'ordre qui vont bien, si on n'a pas les enseignants qui vont bien, on n'a pas parlé du Covid, surmortalité en Seine-Saint-Denis, il y a deux fois moins, 50% de moins de médecins spécialistes dans ces quartiers-là. Si on n'est pas capable de mettre un magistrat dans les commissariats de police pour avoir des jugements extrêmement rapide. Ben en fait, on laisse la situation se détériorer. Et moi, je pense qu'il faut garder l'espoir, parce qu'il y en a.
Espoir, il y en a. Et sur ce, en tous les cas, votre rapport a le mérite d'être dans le débat public et politique. Merci à Kim Al-Karoui de nous avoir réservé les conclusions ce matin.
Là, c'est public, c'est sur le site internet de l'Institut Montaigne.